Le journal Hélène Fromanti, bonsoir.
Bonsoir à tous. De l'or au bout de l'épée, l'escrimeur Romain Cannon offre à la France sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Retour sur son parcours atypique dans une poignée de secondes. Journée dorée et très riche au Japon. On refait le fil de ces 24 heures olympiques dans le journal des sports. Et ce sera avec vous, Alexandre Berthaud. Bonsoir.
Bonsoir. Et oui, à part l'or, il y a aussi l'argent en judo. Il y a aussi un exploit en basketball. Il y a Simone Biles, la gymnaste, qui est entrée en piste aujourd'hui. Et puis, il y a cette Hollandaise qui avait cru faire première et qui, en fait, était deuxième en cyclisme.
Merci, Alexandre. On vous retrouve aux alentours de 19h05. À la une aussi ce soir, vers une adoption définitive du projet de loi sanitaire, sénateurs et députés viennent de trouver un accord. La recrudescence du coronavirus dans les Alpes-Maritimes, la préfecture resserre encore un peu la vis des restrictions sanitaires au grand dam des habitants. Nous serons également en Californie, cantine gratuite pour tous les élèves dès la rentrée, au musée à Paris, où la bande dessinée d'Enki Bilal prend ses quartiers d'été. Et puis dans une demi-heure, place à Noël Bréham et ses petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 9 ans. Je voudrais savoir ton question. Pourquoi quand on est petit, on a une voix, et quand on est grand, on change de voix? Comment et pourquoi?
À tout à l'heure, 19h30 avec Noël Bréham.
France Inter.
Le calendrier voulu par le gouvernement devrait finalement être respecté. Le projet de loi sanitaire est en passe d'être adopté par le Parlement. Les députés et sénateurs réunis depuis le début de l'après-midi en commission mixte paritaire sont tombés d'accord. Il y a quelques instants, Élodie Forêt, et vous avez déjà les grandes lignes.
Oui, c'est une fumée blanche, hein, effectivement, et le texte devrait être adopté dès ce soir. Alors, ça n'a pas été facile, hein. La commission a commencé avec beaucoup de retard, puis elle a été suspendue en attendant les arbitrages de Matignon, qui, pour en terminer le plus vite possible, a été obligé d'accorder des points aux sénateurs. Le plus important d'entre eux, le gouvernement renonce à la possibilité de licencier des salariés récalcitrants au pass ou au vaccin, une sanction que les sénateurs avaient jugée totalement disproportionnée. Le Sénat, qui a aussi obtenu que l'isolement obligatoire des personnes malades soit contrôlé par l'assurance maladie et non par les forces de l'ordre. En revanche, le pass sera bien maintenu comme prévu initialement pour les mineurs à partir de 12 ans dès le 30 septembre. Ainsi qu'en extérieur, les terrasses des cafés et restaurants ne seront pas exemptées. Un état d'urgence sanitaire qui va durer jusqu'au 15 novembre, compromis entre le 31 décembre voulu par l'exécutif et le 31 octobre souhaité par les sénateurs.
Élodie Forêt du service politique de France Inter. L'épidémie de coronavirus qui gagne du terrain en France, particulièrement dans les Alpes-Maritimes où le taux d'incidence grimpe à 407 cas de Covid pour 100 000 habitants. La préfecture décide donc de durcir les restrictions. À partir d'aujourd'hui, le port du masque devient obligatoire dans certains secteurs. Et afin d'éviter les attroupements, à la plage ou devant les bars, on ne peut plus consommer d'alcool ou diffuser de la musique amplifiée sur la voie publique. Mais couper le son pour ces niçois, c'est assez exagéré.
Je pense pas qu'il y a besoin de musique pour que les jeunes se rassemblent. Je pense pas que c'est enlever la musique qui va changer quelque chose.
Devoir interdire la musique, mais dans octobre, novembre, décembre, mais pas dans les époques d'été.
De là, interdire la musique, si c'est contrôlé quand même.
Mais c'est vrai que ça crée fatalement. Mais il n'y a pas que la musique qui crée des attroupements. Vous mettez un clown au milieu de la place, ça va te créer un attroupement. Il faut savoir limiter l'excès, mais autoriser quand même le côté festif des choses.
Justement, du coup, les gens, ils vont être incités à se regrouper à l'intérieur, je pense. C'est une décision qui n'a pas trop de lien, pas trop de cohérence avec la pandémie, mais c'est pas grave.
Denis Soit au micro de Lucie Loconi de France Bleu Azur. Non, pas couper le son du tout. 2000 personnes réunies pour une rêve partie non déclarée la nuit dernière en Savoie. Il y a eu des contrôles de gendarmerie, mais aucun heurt ni plainte déposée dans l'immédiat. Direction maintenant la Tunisie, où des manifestations se sont tenues dans différentes villes du pays. Climat explosif sur fond de crise sanitaire et aussi de crise sociale. Les Tunisiens attendent plus d'efficacité de leurs dirigeants, Valérie Crova.
Que ce soit à Tunis ou à Sousse, dans l'est de la Tunisie, mais aussi à Monastir, Sfax ou Sidi Bouzid, berceau de la révolution de Jasmin en 2011, Des milliers de Tunisiens, souvent jeunes, sont descendus dans les rues pour exiger la démission de leur gouvernement et la dissolution du Parlement. À Tozeur, l'une des régions les plus touchées par la pandémie de Covid, des manifestants ont incendié le local d'Ennahda, le parti islamiste, dont le chef de file Rached Ranouchi préside le Parlement. Les Tunisiens sont exaspérés par le bras de fer qui l'oppose au président Saïed et qui paralyse toute prise de décision au moment où le pays est plongé dans une crise économique et sanitaire sans précédent. Avec près de 18 000 morts pour 12 millions d'habitants, la Tunisie a l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde. Face à la détresse des hôpitaux débordés par le manque d'oxygène et de vaccins, plus de 3 millions de doses ont été envoyées en Tunisie, dont 1 million par la France. Les autorités tunisiennes tablent sur 5 millions de vaccins d'ici mi-août.
Valérie Écrova pour France Inter. Il était quasi inconnu hier. Il est ce soir champion olympique. L'épéiste Romain Cannon, médaillé d'or aujourd'hui en escrime aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tout premier titre olympique pour la France dans ces Jeux. Tout premier titre tout court pour cet athlète de 24 ans, sélectionné à la dernière minute pour aller au Japon, Jérôme Val.
Voilà, ça c'est fait.
Il est celui que l'on n'attendait pas, celui qui a surpris tout le monde. Romain Cannon ne devait même pas être à Tokyo. Il a bénéficié du désistement de l'un de ses partenaires.
C'est les JO, tout est faisable. Mais du coup, ça montre à quel point la France est forte à ce niveau-là, quoi, parce que tout est faisable au JO et il faut avoir la confiance, le jeu, la hargne de vaincre.
Romain Cannon n'avait jamais fait de podium international, mais c'est bien lui qui est monté sur la plus haute marche. C'est bien la Marseillaise que l'on a entendue rien que pour lui.
C'est ouf parce qu'on regarde ça quand on est un gamin, c'est incroyable. Quand on est un gamin, on voit les gens avec la médaille, l'hymne national, et ça fait des frissons déjà quand on est gamin. Alors là, c'est x10, c'est x100, c'est incroyable.
Romain Cannon, c'est aussi un parcours loin des chemins traditionnels des sportifs de haut niveau. Il a passé son enfance entre le Brésil et les États-Unis, le pays où il a découvert l'escrime et où il a hérité de son tempérament de battant.
J'ai commencé l'escrime à 12 ans aux États-Unis avec un coach ukrainien. J'ai une grosse arme contre les Américains parce qu'ils n'ont pas voulu de moi, ils voulaient pas me donner la nationalité. Et du coup, j'ai dit ok, moi je vais vivre mon rêve et je vais revenir en France.
Tous les témoignages le disent, Romain Cannon est un super partenaire en équipe de France. Il est devenu en une soirée l'un de ses leaders. Tokyo, Jérôme Val, France Inter.
Et on continue de dérouler cette longue et fructueuse journée pour le sport français au JO avec vous, Alexandre Roberto. Alexandre, avec cette médaille de Romain Cannon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un escrimeur français en haut du podium.
17 ans, Hélène, presque une génération depuis le dernier or olympique de Brice Guyard en 2004. C'était aux Jeux d'Athènes, au Fleuret. Pourtant, la France est une des nations les plus performantes au monde en escrime, mais pour retrouver un titre olympique à l'épée, comme Romain Cannon, il faut remonter à 1992. Barcelone, le médaillé d'or s'appelait Eric Srecki. 29 ans après, il a trouvé son successeur. Il était temps.
Il était grand temps qu'on ait un champion olympique individuel pour l'escrime française parce qu'on a tourné beaucoup autour à l'épée. On était souvent placé, jamais gagnant. Et c'est quand même une arme de tradition en France où on a quand même un bel historique de résultats. Même s'il n'y a aucune vérité en sport de haut niveau, c'est bien mérité, je trouve. Romain, là, il a fait une journée extraordinaire avec un allant, une vista et une réussite incroyable, quoi. Il n'avait pas à redouter quoi que ce soit. Personne ne l'attendait. Il n'était pas tête de série. La pression, c'est les autres qui l'avaient. C'est quelqu'un qui a un jeu porté sur l'attaque, il a parfaitement adapté son style de jeu à son gabarit et c'est pas du tout un gestionnaire. Faut qu'il provoque, faut qu'il tente des choses. Et quand ça se passe comme ça, il faut de la réussite. Et aujourd'hui, il a été stratosphérique. C'est un garçon qui est charmant, facile à vivre. Il est toujours positif, toujours partant. La fédération a un nouvel ambassadeur pour porter ses couleurs dans les années à venir avec la perspective de Paris dans 3 ans.
Eric Srecki, champion olympique à l'épée en 1992 au micro de Jean-Pierre Blimaud. Ce n'est peut-être pas fini pour l'escrime française, il reste des chances de médailles dès demain avec Enzo Lefort, numéro 3 mondial au Fleuret, et puis bien sûr les épreuves par équipe dans lesquelles les Bleus ramènent souvent des médailles. Et puisqu'on parle de victoire surprise, il serait injuste de passer sous silence celle d'Ahmed Ayoub Afnaoui, vainqueur du 400 mètres nage libre alors que personne ne l'attendait. Le Tunisien avait réalisé le 8e chrono des demi-finales, dernier qualifié donc, mais premier au final sur la boîte, sur le podium. Et depuis chez lui, en Tunisie, au milieu de la nuit, ses proches ont suivi l'exploit. Attention aux oreilles.
«
un moment particulier en Tunisie, puisque c'était aujourd'hui la fête de la République. Ayoub Afnaoui peut encore remporter le 800 mètres nage libre qu'il nagera dans quelques jours. Il est encore lycéen.
Un exploit collectif maintenant, Alexandre. Les Français du basketball ont battu les Américains, les grands favoris de la compétition.
83 à 76, et s'il fallait une preuve de plus qu'une somme d'individualité ne forme pas une équipe, la voici. Malgré sa pléiade de stars, l'équipe américaine a sombré face à la solidarité française. En attaque, sous les coups de boutoir et les shoots lointains d'Evan Fournier. Mais ce match, selon l'ailier Nicolas Batum, il s'est joué de l'autre côté du terrain.
Ça a été la défense, ça a été rester en cohésion, on n'a pas paniqué, mais ils ont eu des runs, ils sont passés devant. On était à plus 6, on est passé à moins 6. Mais vraiment, on est resté vraiment concentré en équipe, pas paniqué. Voilà, c'est la force de ce groupe-là. Evan a eu un gros match, c'est très bien. On a eu des matchs comme ça dans le passé, et on a eu des grosses désillusions derrière. Donc là, on a deux matchs pour vraiment retomber. Regardez ce qu'on a fait de mal, travailler, et c'est un gros match contre les Tchèques.
Pas de fanfaronnade pour l'expérimenté Nicolas Batum au micro de Jérémy Thuil. Ce n'était qu'un match de poule. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France, il l'a dit Nicolas Batum, ce sera mercredi face à la République tchèque avant de jouer l'Iran samedi. Mais il ne faut pas bouder son plaisir pour autant. Une victoire contre les États-Unis, ça n'arrive pas tous les jours en basketball. C'est une vraie performance, dit Claude Bergeot, ancien sélectionneur de l'équipe de France.
Lorsqu'on parle d'exploit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est unique. Or, quand on se projette dans un tournoi olympique, il ne faut pas réaliser que des exploits. Moi, j'allais plutôt attribuer le terme de performance, de haute performance. Les États-Unis sont une des nations majeur dans le panorama du basket mondial. Certes, les États-Unis sont dans leur premier match, sortent de leur play-off NBA, sont peut-être pas encore rodés. Toutefois, l'énergie et l'intelligence mis au service de ce match font un gros match de l'équipe de France défensif. Laisser les États-Unis à 76 points, c'est une vraie performance de très haut vol. Et c'est ce qui a permis à l'équipe de France de prendre sa confiance.
Claude Bergeot, après la victoire de l'équipe de France sur les USA en ouverture du tournoi olympique de basketball, au micro de Solène Cressant. Toujours côté sport collectif, elles aussi ont gagné, mais ça n'est pas un exploit, en tout cas un peu moins. Les handballeuses ont battu la Hongrie, réputée plus faible. Elles se sont fait peur, 30 à 29, mais l'essentiel est là, avant un match plus compliqué contre l'Espagne mardi. Demain, les messieurs du handball français affrontent le Brésil.
On a parlé de l'escrime et de cette médaille d'or, mais le judo a aussi apporter une nouvelle breloque à la France aujourd'hui, et c'est de l'argent, Alexandre.
Oui, 24 heures après le bronze émouvant de Meretze, Amandine Bouchard, surnommée Bubuche, a décroché l'argent en moins de 52 kilos. Autant Romain Canon en escrime ne s'attendait pas à gagner, autant Amandine Bouchard n'avait que l'or en tête. Alors, après sa défaite contre la japonaise Uta Abe en finale, Bubuche a donné rendez-vous en 2024. Elle veut déjà sa revanche.
C'est déjà mon adversaire depuis pas mal d'années. Et ça va le rester encore pas mal d'années. Et voilà, aujourd'hui c'est une défaite. Je compte bien avoir des victoires. Donc voilà, il y a Paris 2024 qui va arriver très vite et je serai prête. C'est mes premiers Jeux. Je les attendais depuis longtemps. J'arrive quand même à... Voilà, je suis vice-championne olympique. Bon, je suis à deux doigts de réaliser mon rêve. Je vais me contenter de ça pour le moment. Et je prendrai ma revanche à Paris 2024.
Elle prendra sa revanche, Amandine Bouchard, médaillée d'argent en judo, moins de 52 kilos, au micro de Xavier Monferrand.
Et vous le disiez, Alexandre, la Française a perdu contre une Japonaise, et cette même Japonaise a remporté l'or quelques minutes avant son frère.
Elle, c'est Uta Abe, donc moins de 52 kilos. Son frère Ifumi Abe, moins de 66 kilos. En l'espace d'une heure, mais moins sur le même tatami, ils ont remporté la médaille d'or. La famille Abe, c'est donc des petits gabarits et des grands palmarès. Uta et Ifumi, en plus de l'or olympique, sont chacun double champion du monde. Une autre belle histoire. On parle d'arts martiaux, de convictions religieuses et d'exil, Hélène.
Avec la quatrième place en taekwondo de Kimia Alizadeh, elle a failli remporter la première médaille de la délégation des réfugiés car elle a fui l'Iran, Alexandre.
Elle était pourtant une star là-bas après sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, en taekwondo donc. Mais elle ne voulait pas porter le hijab, le voile. Elle était contre le sexisme institutionnel en Iran. C'est elle qui le disait. Elle a donc quitté le pays, direction l'Allemagne. C'était en février. Et hasard du tirage au sort au premier tour des Jeux de Tokyo, elle a affronté une de ses amies très proches restée, elle, en Iran. La tête à l'air, donc, sans foulard. Elle a gagné, elle n'a pas pu rééditer sa performance de Rio. Elle échoue donc à la quatrième place.
On va parler maintenant d'une icône, peut-être la star de ces Jeux. Elle est entrée en compétition aujourd'hui.
Simone Biles confirme sa position de favorite en gymnastique. Elle est qualifiée pour les 6 finales, pour toutes les finales. Donc elle est provisoirement première au concours général et en saut. 8e des barres asymétriques, 7e en poutre, 2e au sol. Elle veut devenir la gymnaste la plus titrée de l'histoire de son sport. Simone Biles, l'américaine, semble imbattable, Farida Noir, mais elle a montré des fragilités aujourd'hui.
La superstar s'est qualifiée de justesse pour la finale des barres asymétriques et par deux fois elle est sortie du tapis au saut à cheval et à la poutre, des défaillances inhabituelles dont ses rivales, les Russes et Italiennes, pourraient tirer avantage. Mais Simone Biles reste la favorite et à Tokyo, il s'agit pour elle de faire grossir son palmarès. Déjà 30 médailles à son compteur, dont 4 en or à Rio à seulement 24 ans. Cette boule d'énergie d'1m45 pour 47 kilos ne laisse pratiquement aucune chance à ses adversaires. Puissante, intimidante, la gymnaste domine la discipline au point d'inventer des figures. Elle en a 4 à son nom. C'est aussi la seule sportive qui a son emoji sur Twitter. Une aura au-delà des gymnases. Elle est suivie par des millions de personnes sur son compte Instagram. Une revanche sur la vie pour la jeune femme adoptée par ses grands-parents. Sa mère, alcoolique et droguée, est incapable de s'en occuper. En 2018, elle avoue être l'une des victimes de Larry Nassar, l'ancien médecin de l'équipe nationale condamné pour agression sexuelle. À Tokyo, elle vise 6 titres olympiques, ce qui lui permettrait de dépasser le record détenu en gymnastique par la soviétique Larissa Latinina avec 9 titres.
Farida Noir pour France Inter. A noter que la France est 4e du classement général par équipe pour le moment, avec 2 gymnastes qualifiées pour la finale du concours général. Elles s'appellent Mélanie de Jesus dos Santos et Caroline Eduit.
Et puis on a vécu un épisode tragicomique en cyclisme, quand une Hollandaise lève les bras en passant la ligne alors qu'elle n'est que 2e.
C'est ce qui arrive quand on supprime les oreillettes aux cyclistes. Il faut être attentif à la course. La néerlandaise Annemiek van Vleuten a sans doute mal compté le nombre de coureuses échappées devant elle. Elle en a oublié une. Et quand elle a passé la ligne en 2e position, elle pensait donc avoir gagné. Et depuis, l'image tourne en boucle sur les réseaux sociaux, Fanny Lechevestrier.
Les bras en V en signe de victoire. Radieuse, l'ancienne championne du monde, tombe même en descendant de vélo dans les bras d'un membre de l'équipe autrichienne pour célébrer son triomphe. Avant d'apprendre, quelques secondes plus tard, que l'autrichienne Anna Kiesenhofer était arrivée plus d'une minute avant elle. Scène étonnante. Aujourd'hui, au plus haut niveau, problème de communication dans l'équipe qui s'explique par l'absence des oreillettes sur les courses olympiques. Oreillettes qui le reste de la saison permettent au directeur sportif de donner toutes les infos aux coureurs et coureuses. Mais Van Vleuten a vite retrouvé le sourire. Elle qui décroche à 38 ans sa première médaille olympique il y a 5 ans à Rio. Alors en tête, elle avait lourdement chuté, restant de longues minutes sans bouger au sol.
Fanny Lechevestrier pour France Inter. En vélo, demain on change de roue puisqu'on passe au VTT avec le fameux Mathieu Van Der Poel. Il a porté le maillot jaune, le Hollandais, pendant une semaine sur le Tour avant d'abandonner pour se concentrer sur les JO. Il vise donc le titre olympique, tout comme 2 Françaises qui rouleront demain. Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot sont respectivement première et 2e mondiale de la discipline.
Et on termine ce journal des sports avec les autres Français du jour, Alexandre.
Et oui, parce qu'on a parlé de l'or, de Canon, de l'argent, de Bouchard, des Bleus du basket, du hand, mais la nageuse Marie Wattel s'est elle aussi illustrée, qualifiée pour la finale du 100 mètres papillon brillamment. Elle visera la médaille cette nuit. Autre finale à disputer pour le 2 de couple messieurs en aviron. Ce sera mercredi dans la nuit. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, ils ont été meilleurs temps de leur demi-finale. Ils espèrent donc le titre. En surf, Joanne Defay, une des favorites, elle s'est qualifiée sans problème. En football, la France revient de loin, a battu l'Afrique du Sud 4-3 dans le temps réglementaire. Gignac a inscrit un triplé. En voile, Charline Picon est première après 3 courses sur 13. Bien partie pour viser l'or. Et puis, j'en termine quand même avec des félicitations pour Vincent Milou, passé tout près d'une médaille en skateboard, nouvelle discipline. Il termine 4e.
Alexandre Berthaud pour ce journal des sports et tous ces résultats du sport français aux JO de Tokyo sont à retrouver sur franceinter.fr. Encore un sauvetage de migrants dans la Manche. 80 personnes, dont 20 enfants, secourus ce dimanche au large de Calais, alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. L'an dernier, la préfecture de la Manche a enregistré plus de 9500 traversées ou tentatives, 4 fois plus qu'en 2019. La cantine, bientôt gratuite pour quelques 6 millions de petits Américains. Cette mesure va entrer en vigueur à la rentrée scolaire en Californie, une première à l'échelle d'un État entier. Objectif, aider à lutter contre la faim chez les enfants, un fléau en hausse avec la pandémie, et aussi tenter de soulager les parents financièrement. La correspondance de Loïc Pliala à Los Angeles.
La pandémie a obligé les écoles à fermer, mais puisqu'elles ont continué à être approvisionnées en nourriture, elles ont distribué ces repas gratuitement sur les parkings jusqu'à 400 000 par jour, rien que dans le comté de Los Angeles. La Californie, État le plus riche du pays, mais aux fortes inégalités sociales, a donc décidé de prolonger le programme à la réouverture des écoles. Un surplus budgétaire inattendu permet de financer la mesure. En théorie, 60% des élèves californiens remplissent les critères pour une aide financière au petit déjeuner ou au déjeuner. Tous leurs parents n'en font pas la demande, par honte, mais aussi par peur des documents à présenter à l'administration, comme le statut migratoire de l'enfant. La qualité nutritive de ces repas est un autre problème. À Long Beach, les élèves de primaire mangent dans une semaine typique un hamburger, une pizza pepperoni, des nuggets de poulet, un burrito et des nachos au fromage. À Los Angeles, Loïc Pialat pour France Inter.
Quand la bande dessinée s'invite au musée Le Temps d'un été, 137 dessins originaux de l'auteur de BD Enki Bilal, exposés en ce moment à la galerie Arcurial près des Champs-Élysées à Paris. Des œuvres brutes choisies par l'artiste qui a notamment signé les albums La tétralogie du monstre, Nicopole ou Coup de sang. Et non, Cyril Ardo, cette exposition baptisée Déconstructe n'est pas uniquement réservée aux fans du dessinateur.
Avec cette exposition, les cases d'Enki Bilal deviennent des toiles à part entière. Elles sont présentées sans ordre logique, sans lien les unes avec les autres, de manière à oublier les scénarios des BD pour se concentrer uniquement sur les dessins. Éric Leroy, spécialiste en bande dessinée chez Arcurial.
C'est une exposition basée sur le dessin, donc on peut regarder les différentes techniques employées par l'artiste. Et puis, je dirais que son œuvre dépeint finalement notre société. Donc, il y a des thèmes importants qui sont sérieux. Et on s'aperçoit qu'Enki Bilal est vraiment un illustrateur et un peintre extraordinaire de nos jours.
Des dessins sombres, bruts, parfois violents, un style futuriste, un univers dystopique. Les œuvres présentées sont tirées de 8 albums différents. Elles ont perdu leur bulle, sont exposées sans explication, sans contexte. C'est aux visiteurs de se créer sa propre histoire.
Au jour où on est maintenant guidé avec des petites flèches au sol avec la pandémie, finalement cette exposition c'est un espace de vraiment de liberté parce que ça permet aux gens de revenir en arrière, de voir une case après, dire finalement c'est le même album, c'est le même passage. Donc tout le monde se fait un peu sa scénographie et je trouve ça très intéressant.
Et ce n'est pas la première fois que l'œuvre d'Enki Bilal investit un musée. Il y avait déjà eu notamment le Louvre en 2012 et le musée Picasso en 2018.
Reportage de Cyril Ardo et cette exposition est à découvrir jusqu'au 9 septembre à la Galerie Arcurial à Paris. Le 75e Festival d'Avignon tire le rideau ce soir, en tout cas pour la partie in. Édition forcément particulière à cause de l'épidémie de coronavirus. Et malgré un protocole sanitaire très strict, le public est venu en nombre. Plus de 100 000 spectateurs pour les 45 spectacles proposés. Le festival off, lui, se poursuit jusque samedi prochain. La météo.
La météo avec Pavillon France. La marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et les prévisions météo de Jean-Pierre Rameau de Météo France.
Demain matin, vous allez retrouver un ciel de traîne nuageux accompagné d'averses de la Normandie à l'Île-de-France et jusque vers les frontières belges. Un ciel bâché sur le massif pyrénéen et son piémont. Toujours beaucoup de soleil autour du golfe du Lion et de la basse vallée du Rhône à la Côte d'Azur. Le soleil sera voilé en Corse et partout ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies parfois belles et passages nuageux porteurs de courtes ondées très localisées. L'après-midi, les averses seront plus fréquentes en prenant un caractère orageux. De l'Orléanais à la région parisienne, des Hauts-de-France à la région Grand Est, des orages aussi sur le relief du Jura, du Massif Alpin et des Pyrénées. Partout ailleurs, éclaircies et cumulus se feront jeu égal. Le soleil fera de la résistance du côté des Bouches-du-Rhône. Les températures maximales stationnaires évolueront généralement entre 21 et 27 degrés. Comptez 30 à 33 degrés près de la Grande Bleue.
Merci Jean-Pierre Rameau. France Inter, 19h23. L'heure de retrouver maintenant le goût de nos mères. Eva Bétan a recueilli des souvenirs de cuisine, des recettes intimes qui racontent toute une histoire de famille. Et elle en a fait un livre et des chroniques pour nos week-ends estivaux sur France Inter. Ce soir, témoignage de l'écrivain soviétique Yegor Grand, fils du dissident Andrei Sinyavsky, condamné au goulag du temps de l'URSS et fils d'une mère qui tient tête au KGB. Et dans les ouvrages de Yegor Grand, les héroïnes ne touchent pas aux casseroles.
Maman, je mets le couvert.
Tu veux de la soupe ?
Je veux bien, s'il te plaît.
Vendredi, je crois que je vais nous faire mon île flottante.
Je veux que tu la goûtes, tu me dis si...
Le goût c'est trop bon. De nos mères.
Est-ce que tout le monde a eu de la sauce ?
Oui.
Les légumes aussi ?
Bonjour, c'est fait avec amour.
Par Eva Bétan.
L'amour.
L'écrivain Yegor Gran a d'abord été nourri au lait du courage de sa mère. C'était l'époque de l'URSS. Il était enfant. Son père, le dissident Andrei Sinyavsky, est envoyé au goulag. Sa mère, Maria, ferraille avec le KGB. Les héroïnes ne font pas la cuisine.
L'enfance, avant le retour de mon père, l'enfance, c'est je suis fourré chez les amis, chez les tantes, chez ma grand-mère, parce que ma mère a besoin de temps, que je ne sois pas dans ses pattes, pour organiser un peu sa vie et se mettre à gagner quelque chose. Alors, tout à fait illégalement, avec son tempérament, elle monte un petit atelier de production de bijoux. Au départ, on crève un peu de faim, mais ensuite, même des épouses de hauts dignitaires du parti, par le bouche à oreille, viennent sonner à la porte et disent « Oh là là, il paraît que vous avez des choses formidables, qu'est-ce qu'on pourrait vous acheter ?» On a réussi à survivre de cette manière-là. Ma vie change radicalement quand mon père rentre du camp. Je vois débarquer un personnage, un barbu, un vieillard qui a 46 ans, mais qui me paraît avoir 70 ans, qui n'a presque plus de dents, qui sourit bêtement en me voyant. C'est après que je comprendrai que c'est une émotion incroyable. Et l'aventure littéraire commence à ce moment-là. Il me fait lire, on lit ensemble, tous ces monuments de la littérature qui vont former ce que je suis devenu plus tard. La nourriture, comme vous l'avez compris, c'est pas vraiment le propos. C'est-à-dire que on mange ce qu'on a et puis on se pose pas de questions, en fait. La nourriture est un moyen de survie, basique. Et maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'on fait une fois qu'on a mangé. Il faut écrire des livres, faut polémiquer, etc. Ça, c'est, voilà, faut se battre. La nourriture n'est là que pour assurer le besoin biologique primaire.
La famille est enfin autorisée à quitter l'URSS. Bienvenue en France, sa liberté, ses monoprix.
Au départ, on débarque en France. Faut quand même raconter qu'il y a eu une campagne internationale de soutien pour mon père, qui a été condamné à 7 ans de camp à régime sévère pour avoir écrit de la fiction.
L'écrivain soviétique Andrei Sinyavsky, qui avait été condamné dans son pays à 7 ans de travaux forcés, est arrivé aujourd'hui à Paris, à la Gare du Nord. Sinyavsky a été libéré au mois de mai 1971. Il compte maintenant s'établir en France. Il sera professeur à la Sorbonne. L'écrivain est accompagné de sa femme et de son fils de 8 ans et demi.
Indignation internationale en France aussi, et avec des intellectuels comme UNESCO, etc. Même Aragon, qui a le communisme chevillé au corps, se sent obligé d'écrire une tribune dans l'Humanité. Donc mon père est présent, il fait la une du Figaro, il fait la une de l'Express, il y a 3 pages sur lui dans Paris Match. Et puis évidemment à la maison, c'est une succession de Russes de toutes obédiences et de toute chapelle, de Russes qui se sont retrouvés en Occident. Mais c'était une ambiance, la maison était ouverte en fait, on savait même pas qui allait venir l'après-midi. C'est-à-dire, le matin on se levait, on se disait tiens, il y a peut-être Limonov qui va passer. Quand ma mère découvre un supermarché, la première fois qu'elle rentre dans un monoprix à Bourg-la-Reine, celui qui est en face de la station RER de Bourg-la-Reine, elle s'effondre en larmes en fait, devant une telle abondance où on peut juste se servir et ensuite payer, alors que c'est une femme en acier trempé. C'est une femme qui avait tenu tête à Andropov.
Patron du KGB.
Et bien là, face à l'abondance d'objets et de nourriture, c'est la première fois qu'elle le voyait. Du coup, ce fameux monoprix de Bourg-la-Reine deviendra son magasin fétiche. Et même plus tard, quand on habitera ailleurs, elle prendra le RER pour aller faire ses courses au monoprix de Bourg-la-Reine.
Et Igor Grand garde malgré tout le souvenir d'une forêt noire dégustée dans son enfance. La recette revisitée par un grand chef, David Bizet, à la tête des cuisines de Péninsula, le grand hôtel parisien. Cette recette est sur franceinter.fr. Vous la retrouvez à la page Le goût de nos mères, qui est aussi un livre signé Eva Bettan, coédité chez Stock et France Inter.